talmudique. La semaine dernière s'est déroulée la fête de Pessah, dédiée au souvenir de la sortie du peuple hébreu d'Égypte, sous la conduite de Moïse, inaugurant 40 ans d'errance dans le désert et une vie de liberté et d'élévation spirituelle, avec comme pilier le don de la Torah au Mont Sinaï. Fête tournée vers le passé fondateur de cette libération, fête tournée aussi vers le futur dynamisé par de nouvelles décisions et de nouveaux engagements pour permettre de sortir encore et toujours de l'esclavage du pays d'Égypte, de l'Égypte intérieure et de tout ce qui peut être un enfermement et un obstacle à l'épanouissement de la vie et de l'histoire de chacun. Bien sûr, pour la plupart d'entre nous, ce sont des formules et souvent des vœux pieux. Mais certaines personnes se battent concrètement pour leur liberté, leur choix et leur engagement, défiant les obstacles et les lourdeurs de l'habitude et du fait accompli pour tenter de nouveaux chemins, de nouveaux horizons, pour se transformer et transformer aussi le monde qui les entoure. Ils font ainsi Pessah, au sens étymologique, celui du saut, du grand saut, du passage à autre chose, à une transcendance qui ouvre, certes à l'inconnu, mais peut-être aussi à la joie et au bonheur. Mathieu Yon, bonjour.
Bonjour.
Mathieu Yon, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait de l'homme du grand saut? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cet homme pascal qui un jour a choisi de sortir d'Égypte, non seulement symboliquement mais concrètement, non seulement dans la vie des livres et des idées, vous êtes philosophe, mais aussi dans un contact direct avec la vie du monde réel, du sol et de la terre. Mathieu Yon, racontez-nous votre histoire.
Moi, je suis né dans une famille à la campagne, donc dans la Drôme. J'ai grandi dans une ferme avec mon ami d'enfance qui était le fils du paysan, qui a repris la ferme familiale. Mais mes parents, voilà, étaient des 68ards, voilà, je le dis pas de manière péjorative, pour moi, ça reste un bel héritage. J'ai grandi à la campagne, j'ai fait des études de philosophie, j'ai travaillé sur notamment la pensée de la philosophe Simone Veil. J'ai aussi rencontré par la pensée Emmanuel Lévinas. Et à un moment donné de ma vie, voilà, j'ai voulu me rapprocher de la terre et je suis devenu maraîcher. C'est-à-dire, je produis des légumes diversifiés.
Avec des techniques particulières?
J'ai essayé de trouver une manière d'aggrader le sol, c'est-à-dire de trouver un salaire avec ma production, une manière de gagner ma vie qui ne détruise pas la terre ni le vivant. Au contraire, qui l'aggrade, c'est-à-dire qui augmente sa biodiversité, qui augmente sa vie. Et ça fonctionne, voilà. C'est une manière de se nourrir sans prendre quelque part.
Vous avez fait des études de philosophie et vous êtes particulièrement attaché à la figure de Simone Veil, vous venez de l'évoquer. Comment s'est fait cette rencontre philosophique, Mathieu Yon?
Alors, j'ai rencontré Simone Veil en terminale, et il me semble, quand j'étais en terminale d'un bac général. Ma professeure de philo de l'époque m'avait d'abord fait découvrir un texte d'Emmanuel Lévinas, issu de Totalité Infinie, qui parlait du désir métaphysique. Et peu de temps après, elle m'avait aussi proposé la lecture de La pesanteur et la grâce de Simone Veil. Et ces deux auteurs, quelque part, ont été pour moi une rencontre importante parce qu'ils m'ont donné à la fois le goût, ils m'ont permis de mettre des mots, en fait, sur ce goût de l'infini que je sentais en moi depuis ma naissance, en fait, qui pour moi, l'infini pour moi est associé au manque. Je suis quelqu'un qui a grandi avec le manque, un manque maternel peut-être à un moment donné, mais surtout un manque métaphysique, je crois. Et j'ai trouvé dans les paroles de Lévinas et aussi de Simone Veil une magnifique expression de ce que pouvait être ce manque et de ce que pouvait être la recherche d'une réponse à ce manque.
Dans l'Express du 13 décembre 1955, Camus écrivait « Le plus grand, le plus noble livre qui est paru depuis la libération s'appelle « La condition ouvrière de Simone Veil ». Adoubé et édité par Camus lui-même, Simone Veil offre dans ce livre une réflexion sur la question du travail et ce qu'elle appelle la spiritualité du travail et que vous appelez de vos voeux. Qu'est-ce que la spiritualité du travail, Mathieu Yon?
Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Elle avait perçu ça donc, pendant la guerre et je crois qu'elle a pointé quelque chose. Elle disait que si on ne se penche pas sur ce que pourrait être la spiritualité du travail, on retournera dans des systèmes totalitaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble, ça veut dire qu'en fait, on a séparé d'un côté la notion de production, la notion de richesse, la notion de PIB, et de l'autre côté, le travail, c'est-à-dire la matière, le geste, la technique et le temps aussi, l'attention au monde. Et il faut, à mon avis, de toute urgence, recroiser ces deux données, recroiser ces deux éléments pour que une activité économique soit soumise à une attention au monde, soit soumise à une attention au réel, et qu'on ne peut pas séparer les deux, sinon on aboutit au changement climatique, on aboutit à la destruction du vivant, on aboutit à tout un tas de problèmes.
Vous pouvez nous donner un exemple concret dans votre travail de maraîcher dans la Drôme? Comment, en plantant des carottes, parce que je sais que c'est ce que vous faites aussi, ou des épinards, comment vous êtes à la fois dans votre travail de la terre et dans cette spiritualité du travail, Mathieu Yon?
Il ne s'agit pas d'être oisif, justement, c'est comment, à travers le geste, j'arrive à mettre du temps et de la présence. Il ne s'agit pas pour moi de travailler très rapidement, avec acharnement pendant 2 heures, et ensuite de m'asseoir pendant 1 heure dans mon champ. C'est comment, pendant les 3 heures où je suis dans mon champ, je travaille et je prie à la fois. Et je travaille et je médite à la fois. Méditer, c'est-à-dire, c'est pas que je suis dans mes pensées, c'est que je pense à travers mes mains. Je pense à travers mon corps. Et mon corps me pense, peut-être, d'ailleurs. Et ça passe par l'écoute des oiseaux, l'écoute du sol, la sensation du sol. Est-ce qu'il a besoin d'eau? Est-ce qu'il a besoin d'herbe, de matière organique? Ça passe par la sensation des plantes, de quoi elles ont besoin, qu'est-ce qu'elles me disent en quelque sorte. Et en même temps, ça peut donner l'impression de l'extérieur que c'est assez rapide, parce qu'en fait, quand un geste est maîtrisé, finalement, il est effectué de manière assez efficace. Ça ne veut pas dire que je ralentis volontairement mes gestes, au contraire, je les fais en présence, mais de manière assez efficace. Mais cette efficacité, elle n'est pas du tout contraire à une attention au monde.
Alors, dans votre livre intitulé « Notre lien quotidien », sous-titré « Le besoin d'une spiritualité de la Terre », c'est une autre expression qui en constitue justement le sous-titre. Vous parlez d'une spiritualité de la Terre. En quoi prolonge-t-elle et en même temps se différencie-t-elle de la spiritualité du travail de Simone Veil, dont vous venez nous parler, Mathieu Yon?
Alors, Simone Veil, effectivement, elle avait une expérience en vie d'usine et une petite expérience aussi de la vie paysanne. Mais la spiritualité du travail, je pense, s'ouvre au métier de l'artisanat, aux ouvriers. Elle essaie de le penser pour un domaine plus large, quelque part, que les métiers qui vivent de la terre. La spiritualité de la terre, c'est une déclinaison, peut-être, de la spiritualité du travail, parce qu'effectivement, ceux qui vivent de la terre, c'est-à-dire ce qu'on appelle les paysans, les agriculteurs, les éleveurs aussi, même s'ils ont des animaux, ça reste la terre qui est là. C'est une expérience très très singulière, je trouve, parce que c'est la terre qui travaille aussi et qui nous met au travail quand on est paysan. Donc on met au travail la terre, mais la terre nous met aussi au travail. Donc il y a vraiment une notion de relation et de réciprocité, en fait.
Quand on vous entend, c'est à la fois très poétique, mais cela recouvre quelque chose de très réel. Quand vous parlez d'entendre les oiseaux, les animaux ou le besoin des herbes, vous le dites poétiquement, mais c'est quelque chose de très concret.
Exactement. J'ai vu pas mal de collègues issus d'autres milieux que milieux agricoles, venant des villes parfois, qui s'intéressent au métier de paysan et qui veulent devenir maraîchers. Et j'en ai vu énormément qui arrêtaient, parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à faire le lien entre cette poésie, cet idéal d'un rapport à la terre, et le concret du métier. C'est-à-dire, le concret du métier, c'est l'effort physique. C'est sentir son corps, sentir des courbatures, avoir les mains calleuses, être fatigué le soir parfois, bien dormir du coup. Et c'est ce rapport, voilà, à l'effort physique, à la sensation du corps, qui pour moi était parfois un obstacle quand on venait de métiers où le corps était finalement très peu sollicité. Et pour moi, c'est important. C'est à la fois poétique, mais poétique à travers l'effort.
Philosophiquement, on dirait que c'est poétique et poétique. C'est-à-dire l'action, c'est aussi, vous parlez de poésie, mais c'est aussi rencontrer un renard qui vous regarde quand vous avez fini de planter vos pousses d'épinards.
Effectivement, un soir, je voulais repiquer mes choux, il y avait une accalmie pendant l'été là, de quelques jours où il faisait en dessous de 30 degrés. Donc c'était le bon moment pour repiquer les choux. Le moment du repiquage, c'est un moment où en fait, les plantes sont assez fragiles, elles ne supportent pas des trop fortes chaleurs. Et je repiquais le chou à la lampe frontale, du coup, un soir, pour que vraiment les plantes aient déjà toute la nuit pour s'installer dans la terre, commencer à faire leurs racines, tout tranquillement. Et je vois, avec ma lampe frontale, des yeux qui brillent dans la forêt. et qui bouge pas. Et je m'aperçois que c'est un renard qui a l'air surpris de me voir là, à cette heure tardive, mais qui reste là. Et plutôt que de tomber dans une poésie excessive où je me serais mis à contempler le renard et j'aurais arrêté de planter mes choux, j'ai continué à planter mes choux et lui a continué à me regarder planter mes choux. Et ensuite, je suis parti de mon champ et je lui ai laissé la place.
C'est le renard du Petit Prince qui est sorti du livre et qui est venu vous rendre visite pour réfléchir sur l'amitié.
C'est ça. On n'a pas encore communiqué, mais c'est un peu ça. J'y avais pas pensé, mais il y a de ça.
Alors, je viens de parler de l'amitié. Vous avez fait une rencontre avec la spiritualité qui est passée par un homme d'exception qui s'appelle Frère Antoine. Parlez-nous de Frère Antoine, Mathieu Hillon.
Alors, Frère Antoine, c'est peut-être mon meilleur ami. C'est comme ça que j'ai envie de le formuler, parfois. Je l'ai rencontré à Dieulefit la première fois, il y a 20 ans.
Alors, il faut préciser que vous habitez à Dieulefit.
Tout à fait.
Et pour rencontrer un frère, c'est bien.
Voilà, pour rencontrer un frère à Dieulefit, c'est bien, parce que effectivement, cette ville a une belle histoire, en fait. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est une ville qui a protégé, caché, hébergé des centaines, environ 1500 de juifs et de résistants politique, beaucoup d'enfants juifs notamment. Donc dans notre ville de Dieulefit, il y a eu 9 justes qui ont été reconnus par Yad Vashem, je crois. La mairie fait des faux papiers en fait à toutes ces personnes-là. Donc la population de la ville a fortement augmenté, a presque doublé pendant la Deuxième Guerre mondiale, du fait d'avoir protégé des juifs notamment. Et Frère Antoine, effectivement, a habité à Dieulefit pendant 5 ans, après avoir vécu dans sa grotte du Var, le rocher de Roquebrune. Et c'est là où je l'ai rencontré pour la première fois dans une petite cabane à la périphérie de la ville, enfin la petite ville ou du grand village qui est Dieulefit. Et ça a été une rencontre d'une nuit comme ça. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré, c'était autour de la Pâque d'ailleurs, c'était autour du moment de Pessah. Mais je ne le savais pas à ce moment-là, mais c'était autour de Pessah. Et on a passé cette nuit-là, on a discuté une bonne partie de la nuit, et il m'a proposé de me faire découvrir l'Inde en fait, parce que lui, c'était à la fois un moine cistercien, mais qui était amoureux de l'Inde aussi. Et du coup, à l'âge de 21 ans, il m'a emmené en Inde et il m'a fait découvrir l'Inde.
L'Inde et la spiritualité hindoue ?
Oui, alors la spiritualité hindoue, moi j'ai jamais été très versé dans les textes hindous. Par contre, j'ai été profondément marqué par le sacré et la spiritualité qui se dégage de partout en Inde. C'est-à-dire, en Inde, il n'y a pas une rue, une ruelle, un bosquet, j'ai envie de dire, dans lequel il n'y a pas un encens, une bougie, un temple. Voilà, ça fait 10 ans que j'y suis pas retourné, mais moi j'ai été très marqué par à quoi peut ressembler un pays dans lequel le sacré est omniprésent.
Alors, cette rencontre avec Frère Antoine, vous a décidé de faire vous-même le chemin vers le baptême. Je précise que vous n'êtes pas juif et que vous avez décidé de vous baptiser. Comment s'est fait ce chemin vers le baptême, Mathieu Hillon ?
Alors, il s'est fait de manière assez, j'ose presque dire, iconoclaste. Moi, je me sens un peu comme Simone Veil. C'est-à-dire, Simone Veil, elle a dit qu'elle restait sur le seuil de l'Église. Et moi, j'ai fait ce choix-là d'être baptisé, mais je me sens toujours quelqu'un qui reste sur le seuil. Voilà. Donc, pour moi, c'est important de rester à cet endroit-là. Mais à un moment donné, effectivement, dans mon parcours, notamment par la lecture des évangiles, en fait, j'ai été touché, effectivement, par cette lecture et j'ai senti le besoin de passer par une tradition. Alors que je venais plutôt d'un milieu anticlérical et que moi-même, j'étais, je reste toujours extrêmement critique à l'égard d'un quelconque cléricalisme. Mais voilà, c'est passé par ce moment d'accepter une tradition, d'accepter aussi d'être né ici, en France, et d'accepter aussi le fardeau aussi de l'histoire de l'Église, notamment à l'égard du peuple juif, qui pour moi reste un fardeau. Et j'ai envie de vous parler aussi de ma grand-mère Suzanne Lévin et de mon arrière-grand-père Alexandre Lévin, qui était juif, et de mes arrière-grands-parents Kravtsov et Lévin, qui venaient de Prokhorovka en Russie. Mon arrière-grand-oncle Raymond Lévin, qui est mort en déportation à Auschwitz. Pour moi, c'est extrêmement important de rester fidèle aussi à cette mémoire et de ne pas devenir chrétien par dépassement du judaïsme ou par oubli ou par... Il n'y a aucune supériorité quelconque à aucun moment dans les textes chrétiens par rapport aux textes juifs.
<t'-> grand-mère, s'il te plaît. Pourquoi la mer est salée autant que ta soupe au blé? Tu vas voir, c'est tout bête, mais finis ton assiette. C'est parce qu'un jour ton grand-père, la prenant pour la soupière, y a renversé la salière. Soulève à qu'on faisait la vaisselle, et c'est ainsi que sont nés les arcs-en-ciel. C'est des histoires à dormir dans le sable, des berceuses, des légendes arabes, des histoires de grands larges et de villes, des histoires longues comme un long fil.
Les histoires, une chanson d'Alain Leprest sur une musique de Romain Didier, chantée ici par Enzo Enzo dans son disque Cantate pour un cœur bleu de 2009 avec Jean-Louis Trintignant comme récitant. La poésie, Mathieu Yon, vous inspire beaucoup. Est-ce parce que elle vous inscrit dans des histoires longues comme un long fil, que l'expression qu'on vient d'entendre dans cette chanson, dans des histoires où vous retrouvez vos grands-parents, vos arrière-grands-parents dont vous venez de nous parler, vous retrouvez aussi votre ami le frère Antoine et vos amis poètes disparus comme Christian Bobin et Jean-Marie Kervich par exemple, Mathieu Yon.
Eh oui, effectivement, ça fait partie de cette histoire et ça me rappelle un souvenir d'enfance en fait, en écoutant cette chanson. Une de mes premières rencontres, ça va paraître trivial avec peut-être le sacré, c'était, on était en famille et on avait regardé un film de Claude Lelouch qui s'appelle La Belle Histoire. Je pense que j'avais moins de 10 ans, peut-être 7 ou 8 ans. Et je garde un souvenir comme ça, on était tous ensemble dans le salon avec ma mère, mon père, mes frères, et le film dure plusieurs heures. Et je dirais que peut-être en tant qu'enfant, ça a été une première image comme ça d'une belle histoire. Une belle histoire du sacré et des religions quelque part. Et mes grands-parents, effectivement, paternels et maternels, ont beaucoup compté et comptent toujours beaucoup. Et avec la mort de frère Antoine, avec la mort de mes grands-parents, j'ai développé une drôle de faculté. J'ai l'impression que parfois que les morts sont des vivants comme les autres et je crois pas que ce soit une illusion. Parfois, j'ai l'impression que la relation continue avec eux, après leur mort.
Et la poésie vous aide pour en formuler la présence?
Oui, à travers la poésie, j'ai l'impression que les mots qui sont dits à la fois touchent quelque chose du temps perdu, comme dirait Marcel Proust, mais du temps qui ne se perd pas aussi. La poésie, elle se situe pour moi dans un langage qui parle du temps perdu et qui effleure le temps qui ne se perd pas, le temps qui se tient à travers peut-être ce fil ténu de l'histoire. Que certains appellent cette ligne incandescente qui traverse le temps. Et il y a un poète, par exemple, qui est décédé aussi, qui s'appelle Thomas Tranströmer, un poète suédois, dont j'ai envie de vous lire un court texte.
Oui, j'allais vous le demander. Alors, précisons que Thomas Tranströmer est un poète très très connu, puisqu'il est prix Nobel de littérature, mais il fait partie de ces prix Nobel de littérature que personne ne connaît, ou en tout cas que très peu de gens connaissent. Pourquoi cet oubli de ce poète?
Effectivement, moi c'est quelque chose qui me touche profondément. C'est à la mort des poètes, il y a un grand silence bien souvent. Il y a un poète de la Drôme, là, je ne suis pas très loin de lui, chez lui, qui s'appelait Philippe Jacotet, un grand poète français qui est décédé il y a quelque temps. Il y a eu Jean-Marie Kervich qui est mort aussi. J'écrivais à Bobin quand à la mort de Kervich, la mort d'un poète fait moins de bruit qu'une feuille de tilleul qui tombe. Il avait trouvé cette phrase très belle, sauf que ce silence à la mort des poètes pouvait me mettre en colère à un moment donné de ma vie. Et je crois que maintenant, je l'ai accepté et peut-être que c'est beau ainsi. Et peut-être que les poètes ne doivent pas faire de bruit, peut-être que c'est leur rôle. Au milieu de l'immense église romane, les touristes se pressaient dans la pénombre. Une voûte s'ouvrait sur une voûte et aucune vue d'ensemble. La flamme de quelques cierges tremblotait ça et là. Un ange sans visage m'enlaça et me murmura par tout le corps. N'aie pas honte d'être humain, sois-en fier. Car en toi, une voûte s'ouvre sur une voûte, jusqu'à l'infini. Jamais tu ne seras parfait, et c'est très bien ainsi. Aveuglé par mes larmes, je fus poussé sur la piazza qui bouillait de lumière, en même temps que Mr. et Mrs. Jones, Monsieur Tanaka et la signora Sabatini. Et en eux, une voûte s'ouvrait sur une voûte jusqu'à l'infini. Eh bien, dans ce poème, pour moi, il y a Pessard, il y a Emmanuel Lévinas, et il y a peut-être aussi Simone Veil, il y a Bobin, il y a Jean-Marie Kerouich, parce qu'en chacun de nous, il y a ces voûtes qui donnent sur d'autres voûtes, mais que cet abîme, en fait, a quelque chose de merveilleux, en fait, voilà. On peut le voir comme une angoisse, cet infini en nous. Je reprends, voilà, cette angoisse du manque. Mais on peut le voir aussi comme une merveilleuse invitation à l'autre, au voyage et au passage.
Parfois, pourtant, Mathieu Yon, en vous lisant, on a l'impression que vous vous sentez à l'écart, voire même, je vais utiliser une expression qui pourra surprendre, peut-être même choquer, voire même traître à ce que vous avez reçu. Mais vous vivez cette traîtrise comme une nécessité, comme cette idée, la question c'est comment cette idée de traîtrise vous est-elle venue et comment aujourd'hui vous porte-t-elle dans la vie de tous les jours ?
C'est une question vraiment, vraiment importante pour moi et que ce livre effectivement m'a aidé à formuler. Je supporte très très mal les projections à mon égard. Les projections, pour moi, je les fuis. C'est-à-dire, s'il y a des projections excessives sur moi, qu'elles soient positives ou négatives, je les fuis. Et cette fuite peut donner un sentiment de trahir ce que les autres voient en moi, de trahir ce que les autres attendent de moi. À un moment donné, j'ai pu penser que Dieu attendait quelque chose de moi et que je pouvais le trahir si je ne faisais pas ce que je croyais qu'il me demandait. Et maintenant, je suis beaucoup plus en paix avec ça. Et dans cette quête d'une trahison libre, Judas a beaucoup compté pour moi et compte toujours beaucoup. Yehuda, c'est-à-dire un des apôtres apparemment de Jésus, c'est quelqu'un, en tout cas c'est un nom dont je me sens proche et qui dit quelque chose de notre histoire justement, qui dit quelque chose de notre lien et qui n'est pas là simplement pour trahir la vérité. En fait, pour moi, Judas, il est là pour montrer le mensonge. Et montrer le mensonge, parfois c'est insupportable. Et on le paye très cher parfois quand on montre le mensonge. On peut le payer très cher, on peut devenir des boucs émissaires. Voilà, c'est ce que l'histoire montre souvent.
Montrer le mensonge, pourtant vous le faites malgré tout. Je pense à ce que vous dites à propos de ce que l'on pourrait appeler l'Égypte numérique, de laquelle vous avez réussi à sortir, Mathieu Yon. Je pense à vos réflexions sur le smartphone. Non pas une attitude réactionnaire, mais une prudence philosophique pour ne pas passer à côté de l'intensité du vivant. Expliquez-nous cette relation très particulière que vous avez avec cette Égypte numérique.
Effectivement, je me sens sur le seuil et je regarde partir ceux qui sont sortis d'Égypte, mais j'ai l'image parfois d'un Hébreu peut-être ou quelques-uns qui seraient restés dans la maison de servitude et qui aurait vu partir le peuple et qui se serait réjoui de savoir que le peuple hébreu quittait la maison de servitude. Et je crois qu'il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire qu'il faut se réjouir que la vie continue sans nous. Et quand bien même nous, on resterait encore dans cette maison de servitude. Et cette image me donne de l'espoir et me fait dire que le numérique passera. De la même manière que aujourd'hui les énergies fossiles sont remises en question et après un règne sans partage pendant environ 2 siècles, je crois que à un moment ou à un autre, l'humanité quittera aussi l'Égypte numérique et s'en délivrera.
En quoi elle nous enferme, par exemple, si on prend l'exemple du smartphone que vous pointez du doigt dans votre ouvrage qui s'appelle Notre lien quotidien, Mathieu Yon?
Il y a plusieurs arguments. Pour moi, c'est pas tant l'argument de surveillance, même s'il est réel, c'est-à-dire que ces objets, en fait, nous observent, on croit les utiliser, mais bien souvent, c'est eux qui nous utilisent à partir de toutes les données qui sont récoltées sur toute la Terre. Mais pour moi, c'est encore plus simple que ça, la raison principale. Elle est toujours autour de cette difficulté par rapport aux projections, de cette J'ai beaucoup de mal avec un objet qui serait partout. J'ai beaucoup de mal avec l'idée d'un objet qui occuperait nos poches, nos lits, nos tables, nos bureaux, nos sacs, nos oreillers. Pour moi, ça incite au minimum à la critique et éventuellement à la défiance. Pour moi, il n'y a que les écritures éventuellement, ou peut-être une relation à l'intime, à Dieu, que j'autorise quelque part à entrer dans toute ma vie. Mais jamais, jamais un objet fabriqué de cette manière-là.
Alors vous venez d'évoquer les écritures, justement, dans l'évangile de Matthieu, le bien-nommé, vous vous appelez Matthieu. Dans ce chapitre 6 qui énonce et commente le Notre Père, il est écrit au verset 11 « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » que vous transformez en « Donne-nous aujourd'hui notre lien quotidien ». Quel est ce lien et comment le mettre en œuvre, puisqu'on vient de comprendre que ce n'est pas le lien numérique, Matthieu Yon?
Effectivement, là je vais reprendre Frère Antoine qui disait ça. Notre pain quotidien, en fait, c'est le quotidien qui est le pain. Ça, c'est une phrase de Frère Antoine. Et c'est lui qui m'a mis sur la piste, c'est le quotidien qui est le pain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre pain quotidien, c'est notre temps. C'est notre temps quotidien, c'est notre vie quotidienne. Et c'est ce temps-là de nos vies qui nous nourrit. Bien sûr, il y a le pain. Je suis maraîcher, donc je sais bien que le pain et les légumes ont besoin d'être des éléments concrets. Mais ces éléments concrets, c'est aussi du temps. C'est aussi du temps vécu, du temps passé, du temps de travail. Et c'est ça qu'il faut rappeler, à mon avis.
C'est-à-dire vivre le présent au présent, c'est-à-dire se concentrer sur ce que l'on fait, ne pas s'échapper dans le passé, ni s'envoler dans un futur, je dirais, illusoire. C'est cela que vous voulez souligner?
Il y a de ça, mais je suis obligé de mettre quelques parenthèses. Venant d'un milieu au départ assez inspiré par les spiritualités, où j'ai beaucoup lu de livres de spiritualité, Arnaud Desjardins par exemple, il y a une insistance sur le présent dans notre société contemporaine, hic et nunc, qui voudrait nous faire croire que le présent serait séparé et du passé et du futur. Et là, je crois qu'il y a une erreur d'interprétation. C'est-à-dire que pour moi, je n'ai jamais autant eu l'impression d'être dans le présent des choses. Depuis que je suis maraîcher, depuis que j'essaye de faire la paix et de faire la paix avec mon histoire, avec l'histoire de mes grands-parents, de faire la paix avec la tradition chrétienne. Et c'est beaucoup plus une présence qu'un présent. Voilà. C'est être dans une présence beaucoup plus que dans un présent qui serait numérique, lui aussi, coincé dans le fil du temps.
Un exemple de cette présence?
Alors, cette présence, pour moi, je sais pas pourquoi, mais c'est une bougie que j'allume quand je prie quotidiennement avant d'aller dans mon champ ou en rentrant de mon champ, sans être trop dans l'image romantique de l'Angélus de Millet. C'est allumer le feu, puisque chez moi, on se chauffe au poêle. Donc, cette présence du feu aussi, c'est la présence des écritures, que ce soit les écritures de la Torah ou les écritures des évangiles. Les lettres bougent quand je les lis. Alors sûrement que moi, je ne suis pas le même quand je me penche sur elles, mais j'ai l'impression qu'elles aussi, elles bougent, et je ne suis pas le seul à être différent quand je me penche sur l'écriture. C'est toutes ces présences qui sont là. Et pour paraphraser une phrase du poète Paul Valéry, notre époque, je crois que ça pourrait se dire comme ça, c'est « Le vent se lève et il faut tenter de lire ». La phrase de Paul Valéry, dans le poème « Cimetière marin », il dit « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». Et il me semble qu'on pourrait dire « Le vent se lève, il faut tenter de lire ».
C'est magnifique. Alors vous venez de dire que vous lisez les évangiles, vous lisez beaucoup les poètes, nous l'avons entendu, et vous venez de dire en passant que vous lisez aussi les écritures juives, le Midrash en particulier, j'ai cru comprendre. Qu'est-ce que vous apprend ces textes juifs dans votre tradition et dans cette présence très bachelardienne d'ailleurs, Matthieu Yon?
Les textes de théologie chrétienne, donc c'est-à-dire pas les évangiles, je les comprends, mais bien souvent ils ne me parlent pas. Et les textes d'herméneutique juive, je ne les comprends pas, mais ils me parlent. Il y a un livre qui a beaucoup compté pour moi, que je ne comprends pas, c'est très sincèrement, c'est le livre d'Abraham Aboulafia qui a été réédité aux éditions de l'Éclat, qui s'appelle « Lumière de l'intellect ». Je pense que je n'ai pratiquement rien compris de ce livre, mais étrangement, il me parle. Et quand Abraham Aboulafia parle de clôturer les brèches, j'ai l'impression que c'est ce que j'essaie de faire dans mon métier de maraîcher et dans ma lecture des Écritures. Et je vous cite un passage de La Lumière de l'Intellect. Abraham Aboulafia écrit « Quand un homme voudra transmettre une tradition reçue concernant la connaissance du nom, il faudra qu'il la transmette à ceux qui clôturent les brèches. » Alors, je ne prétends pas savoir exactement ce qu'il voulait dire par « ceux qui clôturent les brèches », mais ce que j'entends, c'est que, et il le dit, chaque génération et chaque époque doit comprendre où sont les brèches, où sont les violences, où sont les blessures, et essayer de les, non pas de les saisir, non pas de les prendre, mais essayer de les caresser, comme vous diriez, Marc-Alain, essayer de les lire et pour clôturer les brèches.
Merci Mathieu Yon pour cette conversation passionnante et poétique. Je rappelle le titre de votre livre que nous avons évoqué aujourd'hui, « Notre lien quotidien », sous-titré « Le besoin d'une spiritualité de la terre », paru aux éditions Nouvelle Cité, un livre beau et inspirant. Merci encore Mathieu Yon.
Merci Marc-Alain.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Manuel Couturier, à la réalisation, Alexandra Malka. Coltouv, les trottes, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. We'll be right back.